liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 43 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Nicolas.
Salut Luc.
Alors, le sommaire, petit sommaire.
Petit sommaire, six beaux articles. Donc, Windows 8 vient de sortir. Wouhou ! La Adopi dont on reparle et qui aimerait bien faire du libre, bonne chance. On va parler de comment on dresse des chats ou des informaticiens. Un bel article sur le partage des publications scientifiques, de la conception logicielle qui touche au libre et qui nous explique un petit peu comment on travaille dans ce monde-là. Et puis, finalement, un bien bel article, un gros article sur le brevet unitaire en anglais, mais qui nous confirme plein de choses sur lesquelles on se bat depuis longtemps.
Voilà, donc c'est quand même une revue de presse qui est marquée par le saut de l'humour, hein. Il y a quand même plein de trucs très très drôles. Et pour commencer, donc lemonde.fr, Microsoft reboot l'informatique, un article de David de Larousserie, donc Windows 8 vient de sortir.
Alors enfin, Windows se décide à sortir son Windows 8. Le problème, c'est que ça va remettre en question la totalité du monde de l'informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. On va devoir changer de PC, puisque c'est clairement orienté pour des tablettes, en tout cas plus les postes bureautiques comme on pouvait avoir. On change de méthode de travail, on va changer de configuration matérielle. En gros, c'est le titre de l'article, Microsoft reboot le monde de l'informatique.
Et ça, ça va faire plaisir à tous les utilisateurs actuels. On n'hésite pas, hein, et venez voir du côté du libre, vous aurez des choses mieux, ou en tout cas au moins équivalentes. Ça peut pas faire de mal. Et puis, globalement, là, on est bien embêté avec l'UEFI qui revient, hein, là, une fois pour toutes.
Alors l'UEFI, tu peux peut-être nous rappeler, Nicolas, ce que c'est ?
Donc en fait, c'est l'évolution du BIOS, qui est un système qui sert à démarrer les machines, et avec Windows 8, donc le système devient soi-disant plus intelligent, et donc va pouvoir faire des contrôles du type qu'est-ce qui démarre, qu'est-ce qui est installé, et Microsoft a, en gros, demande aux constructeurs de refuser tout ce qui ne serait pas Windows installé sur la machine.
Tout ce qui serait pas signé par Windows, ils acceptent quand même d'autres logiciels, mais il faut quand même payer la certification.
C'est ça, en fait, on a besoin de clés de certification, et aujourd'hui, GNU Linux a réussi à arracher une clé de certification, mais on dépend toujours du bon vouloir de Microsoft. S'ils nous rejettent du jour au lendemain, tous les systèmes autres que Windows seraient considérés comme des virus.
Et manifestement, ça remettra en cause aussi la possibilité de faire un multi-boot, c'est-à-dire d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, et même si c'est possible, c'est vachement plus compliqué qu'avant.
C'est ça, même Windows deviendrait incompatible avec Windows, les anciennes versions ne pourraient même plus être installées. Enfin, en gros, ils vont imposer ce qu'ils veulent, et je pense que de base, la seule chose qui sera installée, ce sera Windows 8.
Ça leur donne un pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier, même si là, ils donnent les certifications, eh bien, ils ont toujours le pouvoir de les enlever. Et ça, ne serait-ce que ça, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui est énorme.
Voilà, ce qui est intéressant dans l'article, hein, c'est qu'ils en parlent, hein, tout à fait. Donc, c'est un article du Monde, presse généraliste, mais en tout cas, ces dangers-là sont bien identifiés. Numérama, la Adopi aimerait faire de l'open source, mais ne peut point, dit-elle. Un article par Guillaume Champeau, donc deuxième gag.
Voilà, le gag de la semaine. L'Adopi, qui travaillait sur des outils, en fait, pour surveiller un peu ce qui se passait dans l'offre légale, de voir comment ça évoluait, est-ce que c'était bien appliqué, a développé des outils, et s'est posé la question, est-ce que ces outils-là devaient être open source ou fermés ? Et Adopi, en gros, on a conclu qu'il fallait pas les ouvrir parce qu'elle avait trop mauvaise réputation et risquait de se faire démolir publiquement, se faire crucifier en place publique pour la qualité du code ou d'autres excuses, à mon avis, bidon. Puisque je pense qu'il y a plutôt une autre vraie raison derrière.
Alors non, je pense que là, non, tu pousses, pas bidon, c'est probablement très nul ce qu'ils ont fait, ça, on n'en doute pas vraiment.
Alors ils disent qu'ils n'ont qu'un seul développeur là-dessus, voilà. Et que la communauté, comme si c'était une seule personne, ne l'aime pas. Probablement qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ne les aiment pas, mais passons. Mais on a l'impression un peu que leur appel à la communauté, leur espoir le essentiel, c'est d'avoir des développeurs gratos, quoi, finalement.
Il y a un peu de ça, hein. Moi je trouve que c'est un petit peu le canard boiteux qui aimerait devenir signe et plaire à tout le monde. Il y a un côté où personne même, c'est moche, mais là en plus ils ont qu'un développeur, ils ont fait du pauvre code dans un coin, et en gros la fonctionnalité qui est mise en avant dans l'article, en tout cas, c'est pour faire que les sites d'offres légales apparaissent mieux dans les moteurs de recherche, ce qui est ridicule parce que y a plein de techniques, il y a plein de gens qui dont c'est le boulot. Moi j'ai fait ce genre de choses, c'est d'optimiser les moteurs de recherche et les résultats de recherche, et donc ça a l'air de faire ça. C'est ridicule parce que je pense pas que la Adopi soit très bonne à travailler sur les moteurs de recherche, j'en doute énormément.
Bon, assez rigolé sur le dos de l'Adopi, c'est trop facile. Passons à la suite. Capital.fr, Red Hat ou l'art de manager des rebelles, un article de Anne Kagan. Alors cet article-là, Encore un truc bien drôle, donc ça parle de Red Hat, hein, qui s'appuie sur toute une communauté, à la fois de développeurs individuels ou de gens qui travaillent dans d'autres entreprises. Et truc assez rigolo, c'est le petit chapeau introductif dit « Contraint de recruter parmi les militants de la cause, le champion du logiciel libre doit injecter dans sa politique RH les valeurs égalitaires chères à la tribu geek. »
Avec une magnifique photo d'un geek un peu affalé sur son fauteuil devant
l'ordinateur. Tatoué, avec des piercings, etc. Donc on sent que c'est vraiment très violent, c'est dur, ils sont obligés, ils sont contraints. Sinon, ils vont mourir, quoi.
Ouais, ils en arrivent même à se faire tatouer le nom de la boîte, de leur boîte sur la peau. Donc, avec les problèmes que ça peut imposer derrière, le jour où ils veulent changer de boîte.
Ils sont vraiment dans une optique de favoriser le travail. Notamment, bah, ils ouvrent énormément sur le télétravail. Et ils poussent à ce que les développeurs se mettent, eux, à la volonté, à avoir la volonté de travailler pour l'entreprise. Donc, effectivement, ce tatouage apparaît à un moment donné. Il y en a qui sont tellement motivés, semble-t-il, ils se tatouent Red Hat sur le corps.
Voilà, ce qui est quand même rigolo, c'est que ça commence en disant contraint de le faire, mais en fait tout l'article montre que c'est absolument pas de la contrainte et que c'est plutôt une stratégie, et une stratégie qui marche super bien. Et, mais voilà, c'est un point de vue sans doute orienté pour les lecteurs de Capital.fr, et c'est très marrant en fait.
Moi j'apprécie, c'est qu'effectivement Capital.fr, c'est quand même quelque chose qui va parler aux entrepreneurs a priori, aux big entreprises, leur montrer ce genre de modèle là qui casse tout ce qu'ils doivent avoir en tête, ça peut peut-être être intéressant pour changer les façons de travailler et essayer de faire rentrer cette idée, voilà, les gens peuvent venir au travail volontairement, ils peuvent travailler de chez eux de manière efficace, c'est une révolution.
Ouais. Et on peut citer par exemple un autre exemple par rapport à Red Hat, c'est Google, où Google a quasiment mis des villes entières dédiées au travail et les gens n'ont pas l'impression de travailler, sont vraiment là plus en loisirs ou en touristes, ils ont des salles de cinéma, des supermarchés à l'intérieur de leur entreprise et au final sont très très productifs puisqu'ils passent leur vie au travail et sans forcément s'en rendre compte et ils n'y vont sûrement pas à reculons en tout cas.
Il y a quand même un élément qui, à mon avis, peut faire peur au chef d'entreprise capitaliste de Capital.fr standard, c'est qu'elle explique bien que c'est la communauté qui décide de l'évolution du logiciel et que bah, cette évolution, en général, quand un client a une demande, si la demande est raisonnable et correspond à un besoin, ça va marcher, mais qu'autrement, voilà. Donc il y a cette question de transfert du pouvoir sur les produits, sur l'activité de l'entreprise, et ça, je pense que ça doit faire peur à énormément de monde. Et donc il y a ce petit côté où on est à la fois entre une utopie et une sorte d'enfer entrepreneurial, donc c'est très intéressant.
L'enfer pour les managers des années 60, n'est-ce pas ?
Rue 89, blog de Rue 89, Libre Accès, les chercheurs défendent leurs travaux et l'esprit d'Internet, un article de Pierre-Carl Langlais.
Bien bel article qui met en avant le côté Wikipédia, c'est Hôtel Wikipédia, dans les coulisses de l'encyclopédie en ligne. Là, on voit une autre façon de penser qui parle des articles scientifiques et qui met en avant voilà, un petit scandale hein, qui existe depuis quelques années, c'est le fait que bah, l'accès aux revues coûte terriblement cher, les auteurs ne sont pas rémunérés ou pas vraiment rémunérés pour leurs articles, non, ce sont les intermédiaires qui se payent grassement là-dessus et qui récupèrent mais vraiment des bénéfices énormes, je crois que c'est de l'ordre de 25% de rendement pour ces entreprises ou 30%, ce qui est considérable dans un domaine où a priori il n'y a pas forcément beaucoup d'argent non plus.
Ouais, et en fait le système s'est complètement inversé puisqu'au début les scientifiques étaient payés pour publier leurs articles, les revues de presse scientifiques étaient accessibles gratuitement ou en tout cas sur des montants très très faibles. Et les sociétés d'édition ont commencé à se rendre compte que ça pouvait générer énormément de bénéfices et du coup ont inversé le système, c'est-à-dire que les auteurs ne sont pas rémunérés pour publier, par contre les universités, les chercheurs ou d'autres équipes de chercheurs doivent payer des fortunes, on parle de plus de milliers d'euros pour un abonnement à une revue, et ça va directement dans les poches de la maison d'édition et non plus de l'auteur initial.
Donc cette révolte, elle couvre depuis des années, hein. Moi ça fait 10 ans que j'en entends parler de ces scandales et tout ça, avec des tas d'initiatives plus ou moins éparpillées qui émergent, et là il semblerait que ce soit en train de prendre de l'ampleur, donc c'est intéressant, ça cite notamment l'Open Access, qui est un projet de publication scientifique. Du côté de Wikipédia, ils ont aussi des réflexions, et l'idée de faire des systèmes de publication scientifique avec validation par les lecteurs et tout ça, mais qui soient vraiment à destination du monde scientifique. Donc voilà, un article intéressant, on espère que ça va bouger de ce côté-là, parce que c'est effectivement un des scandales qui traîne depuis des années et des années. La Tribune, la conception logicielle appliquée au monde physique, un article de Fabien Echen.
Un long article qui présente eh bien, des choses assez agréables hein, d'un point de vue, du point de vue de mon métier, c'est les méthodes de travail qu'on utilise en grande partie dans le libre. Donc vous allez voir des mots comme agile, lean, scrum, extreme programming, donc des concepts qui rentrent dans les entreprises un peu plus traditionnelles, qui vont changer les méthodes de travail et qui là qui sont présentées. Est-ce que ça vient vraiment que du libre ? Je ne sais pas trop qu'en dire, hein, le Nicolas.
Donc aujourd'hui, dans les entreprises ou même dans le développement libre, il y a deux méthodes de travail qui font un peu débat. Il y a les anciennes méthodes, ce qu'on appelle le cycle en V. On va tout faire à la chaîne, séquentiellement. On va commencer par réfléchir à ce qu'on va faire, on va ensuite faire ce qu'on a réfléchi et on va tester ce qu'on a fait, etc., etc. Ça pose l'énorme problème que entre le début et la fin du projet, il peut s'écouler plusieurs années, il peut y avoir des remises en question du projet en cours de route. Et au final, on arrive à quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, qui est plutôt des rustines sur des morceaux de trucs qui ne fonctionnent pas très bien. Et à l'opposé, il y a ce qu'on appelle les méthodes agiles. C'est plutôt que de partir sur des projets de 3 ans, on va prendre des petits morceaux par-ci par-là, et on va essayer d'avancer, de faire des poupées russes, une poupée russe qui fonctionne, et on va le mettre dans une autre poupée russe plus grande, et jusqu'à arriver au projet final. Et là, ça a l'avantage qu'on est très proactif, on va beaucoup itérer sur ce qu'on va faire, réfléchir au fur et à mesure, et pas partir bille en tête, droit vers le mur généralement.
Oui, alors c'est effectivement très intéressant. Moi, je trouve que c'est une chose qui est souvent négligée, qui sont les méthodes de travail du libre. Les méthodes agiles, c'est pas spécifiquement libre, mais il y a d'autres méthodes qui vont être plus particulières au monde du logiciel libre. Là où je vois quand même une limite là-dedans, c'est que c'est très centré sur la conception de la voiture, et qu'après ça, produire une voiture en masse à des millions d'exemplaires, on a besoin de méthodes de type, enfin, emboutissement tôle. Il disait que machine, c'est 10 millions de dollars, et que il faut l'amortir sur un certain nombre d'années, un certain nombre de millions de voitures à faire, et que du coup, on va pas changer la forme de la portière comme ça à chaque fois qu'on en a envie. Il disait également que là où, dans une bagnole, on va intégrer toute une série de calculateurs, un par équipement, qui va être fourni à chaque fois par un fournisseur différent, eux, ils ont mis un système Arduino pour gérer tout ça, donc effectivement, c'est malin. Mais en même temps, Arduino, c'est pas un truc qui est durci pour survivre dans un véhicule. Donc c'est plein de très bonnes solutions, ça permet manifestement de se défaire de toute une série de contraintes qui sont héritées du monde industriel classique, mais ces contraintes, elles sont pas là complètement par hasard, et à mon avis, il y a quand même un pas à faire entre cette conception agile et une production agile.
Ah, moi j'apprécie, hein. Moi j'aime bien justement ce passage des modes de conception, du mode de pensée, de travail du libre, en grande partie, hein, parce que même si c'est pas le libre qui les a inventés, c'est lui qui les popularise largement, et là justement, les repasser sur du matériel et prendre cet exemple d'une voiture qu'on conçoit et dont on fait un prototype fonctionnel en 3 mois, c'est l'exemple que l'article reprend. Moi, j'applaudis dès demain, j'adore, parce que justement, on montre, voilà, on n'est pas obligé de partir sur un gros truc, un cycle en V, avec un mur en fin de vie, et puis on ne sait pas vraiment ce qu'on fait pendant 2 ans, il y a des gars qui bossent dans un coin. Non, on essaye très rapidement d'avoir quelque chose qui fonctionne, même si ça ne fonctionnera pas de manière optimale. Effectivement, hein, dans une voiture en prototype, la petite carte Arduino qui roule et qui vibre, elle va peut-être tomber en panne assez rapidement. Mais bon, c'est le premier prototype. Un mois plus tard, ils en sortiront un autre. Et encore un mois plus tard. Donc dans 6 mois, tu auras déjà 4 itérations. C'est considérable. Rien à voir avec les voitures actuelles qu'on fabrique et pour lesquelles il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, alors que pourtant ils ont déjà tout en place.
Et ça aussi, pour reprendre l'exemple de la panne, les méthodes agiles ont un énorme avantage, c'est que sur les systèmes cycle en V, si on détecte une panne en cours de projet, faut tout revoir depuis le début, et ça peut faire prendre 5 ans de retard pour une petite pièce qui est juste à refaire. Avec les méthodes agiles, la pièce à refaire, on va l'améliorer, on va essayer de trouver des parades, essayer d'intégrer la nouvelle solution au système, et on va perdre peut-être 3 mois plutôt que de repartir à zéro et perdre 5 ans.
Là, moi, ce que je vois aussi, c'est par rapport à tout ce qui est impression 3D, machine à commande numérique, etc. Aujourd'hui, c'est balbutiant, mais on peut imaginer que d'ici 10-15 ans, on ait des méthodes qui permettent de produire en série très rapidement et où on soit complètement décorrélé de la contrainte de la production de masse et de la machine-outil qui a été taillée pour faire telle pièce et aucune autre. Je pense qu'à terme, ce genre de méthode sera rattrapé également par les outils et les machines-outils.
On peut apprécier, c'est la tribune qui met ça en avant. Là, ça veut dire que, encore une fois, il y a des entreprises françaises qui vont tomber sur ce genre d'article, qui vont lire, et peut-être qu'avec le temps, ça va percoler dans les esprits, ça va prendre du temps, mais ces façons de travailler, que ce soit du côté du logiciel, mais aussi du côté du matériel, vont peut-être s'installer de plus en plus en France.
The IPCAT, Max Planck, publishes top 12 reasons why the unitary patent proposals might prove disastrous. Donc, en traduction.
En traduction, les 12 raisons qui vont faire que le brevet unitaire va devenir une catastrophe.
Par Max Planck, hein, ce qui n'est pas rien, un gros institut européen qui a publié plein de choses dans le passé.
Allemand,
exactement. Et effectivement, là, ce qui est appréciable, donc, c'est un top 10 des top 12 raisons. le petit mot d'humour de l'article, on pourra apprécier, parce qu'à côté de ça, c'est assez complexe. C'est tout, en ce moment, vous savez, on vous en a parlé, il y a des brevets qui existent, ils sont en train d'essayer de faire un truc au niveau européen pour l'unifier, pour que ça coûte moins cher, pour qu'on puisse en faire plein. Sauf que nous, on a remarqué à l'April que c'était un peu pourri, et que ça allait repermettre de reconstruire des brevets logiciels, notamment, ce qui vraiment nous embête. Et bien là, un institut comme Max Planck qui montre 12 raisons et qui les détaille, et qui va assez loin dans ses explications, pourquoi le système qui est proposé est pourri. Eh bien, il ne fait que conforter eh bien, notre gibus national. Hein. On a un gars à l'April qui est un spécialiste mondial, européen, français de toutes ces questions. Et il a déjà mis en avant, il a déjà montré que voilà, ça ne pouvait pas fonctionner pour X, Y, Z raisons.
La plus grosse problématique qui est soulevée par cet article, c'est la fragmentation que va apporter le brevet unitaire européen.
Quelle blague, hein, quand
on y pense. La blague, quand on y pense, parce qu'on veut unifier quelque chose et en fait, ça va le fragmenter. Parce que le problème, c'est que bah, l'Europe n'est pas unifiée. Et chacun va vouloir tirer un peu la couverture à lui. On a déjà l'Angleterre qui a voulu imposer des restrictions au système. Ça sera pareil pour la France, ça sera pareil pour beaucoup de pays. Et au final, bah, chacun va faire un peu sa politique du brevet qui sera plus du tout unitaire pour le coup.
Oui, l'Espagne et l'Italie sont retirés parce que l'espagnol et l'italien ne sont pas acceptés dans le brevet unitaire. C'est un beau bordel.
Comme l'anglais, oui.
Donc on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut.
Salut à tous.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Divergence FM.